Radio Ondaine vous propose pour cette année 2019 une série de tables rondes radiophoniques autour des violences faites aux femmes, violences intrafamiliales, avec des acteurs de notre territoire qui, de par leurs activités, apportent un soutien aux victimes et tentent de trouver des solutions dans l'accompagnement de celles-ci et de leur entourage. Aussi, nous essayerons avec nos invités de comprendre l'enjeu de la sensibilisation des plus jeunes sur ce fléau que sont les violences faites aux femmes. Nous tâcherons de ne pas oublier non plus le travail à réaliser avec les auteurs de ces violences pour éviter la récidive et pour une prise de conscience de ces actes.
Et pour ce nouveau numéro et cette nouvelle émission autour des violences conjugales, des violences faites aux femmes, nous rencontrons aujourd'hui Céline Aubrespin, qui est assistante sociale au sein de SOS Violences Conjugales 42. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Ondaine.
Bonjour.
Alors, quand on est assistante sociale dans une structure telle que la vôtre, quel est votre quotidien ?
Alors, nous, sur les locaux de SOS Violences Conjugales, donc qui sont situés au 96 rue Bergson, donc à Saint-Étienne, nous avons plusieurs postes, en fait, et plusieurs missions au sein de ces locaux. Premièrement, nous avons effectivement ce qu'on appelle la permanence d'écoute et d'accueil des victimes, donc qui est aussi bien par téléphone que sur accueil physique, accueil sur rendez-vous. Et on va dire que ça, c'est la première entrée des femmes pour une prise en charge ou juste pour une écoute au niveau des violences conjugales. Donc sur ce poste-là, nous sommes trois, enfin deux personnes à temps plein qui se partagent à la fois les rendez-vous physiques et la permanence téléphonique et une collègue qui est plutôt sur notre foyer d'hébergement et qui vient en renfort voilà, une journée par semaine. Donc l'accueil, il se fait donc entre 9h et 12h30 et 13h et 17h. La plupart des personnes nous sont orientées par téléphone, c'est-à-dire qu'elles nous téléphonent soit elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles prennent... Il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe, elles ont nos coordonnées par le médecin, par leur assistante sociale et elles viennent nous voir. Pas forcément dans un but de départ, mais déjà dans un but de parler de ça, d'être aussi, je pense, reconnues en tant que victimes et qu'on puisse nous leur renvoyer le fait que oui, effectivement, ce qu'elles sont en train de vivre, c'est bien de la violence conjugale. Voilà, c'est pas juste une claque, c'est pas juste il m'a insulté, c'est bien de la violence conjugale. Donc ça fait partie du plus gros des entretiens que nous avons à la permanence d'accueil, qu'elle soit aussi bien par téléphone que physiquement. Après, il y a aussi des dames, nous, qui sont déjà vraiment dans un espoir et dans une démarche de départ du domicile et qui viennent pour avoir des informations sur comment ça va se passer, où elles vont aller, est-ce qu'elles peuvent emmener les enfants ? Est-ce qu'on va leur enlever leurs enfants si elles partent ? Enfin, il y a tout un tas de questions voilà, qui se bousculent. Il y a aussi beaucoup de culpabilité de dire « mais je vais peut-être lui faire du mal, c'est peut-être de ma faute ». Enfin, il y a tout un tas de choses qui se passent. Donc nous, notre but, là, c'est vraiment de les accompagner à cheminer dans cette réflexion du avant-départ, qui ne sera peut-être pas tout de suite, qui va peut-être se faire des mois après le premier entretien. Mais qui va permettre voilà, une première prise de conscience et aussi de leur dire qu'effectivement, il y a des possibilités, si elles partent, d'être accompagnées et d'être logées, hébergées, s'il y a besoin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première étape, on va dire, des victimes quand elles arrivent.
Alors cette étape-là, donc ces permanences téléphoniques ou même physiques, c'est la rencontre donc avec ces personnes-là. Vous allez donc les écouter, c'est ce qu'on a entendu. Est-ce que vous influez sur le parcours ou c'est quand même les femmes qui vont décider de partir ? Comment en fait on fait la mesure entre ce qu'on entend, entre la situation ? Comment ça se passe finalement dans cette réflexion que ces femmes peuvent avoir ?
Alors nous, on essaye le plus possible de ne pas influencer les personnes, effectivement, parce que le choix de partir ou de ne pas partir, il leur appartient. Le choix de venir une fois en permanence pour un rendez-vous et de ne jamais revenir, il leur appartient aussi. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de les faire cheminer, en fait, sur cette problématique des violences, sur ce qu'elles vivent, sur... pourquoi elles sont pas parties avant, parce que souvent c'est ce qu'elles nous disent, mais j'aurais dû partir, pourquoi j'arrive pas à partir, pourquoi je suis déjà partie mais que j'y suis retournée finalement. Bon, il y a souvent la question des enfants qui est mise au centre, hein, de cette problématique. Je peux pas partir parce qu'il y a les enfants, je peux pas les priver de leur père. Il y a très souvent une grosse problématique liée aux enfants. Nous, on est juste là pour être un fil rouge, en fait, un petit... Voilà, on n'a absolument aucune influence sur elles. On leur explique les possibilités qu'elles ont si elles partent, les possibilités qu'elles ont aussi si elles ne quittent pas le domicile, parce qu'on peut tout à fait les accompagner dans une réflexion autour de ces violences. Comme on a pu voir aussi, elles peuvent aussi mener une réflexion avec leur conjoint, si jamais c'est possible. Voilà. Mais en tout cas, nous, à aucun moment, on influence leur prise de décision. Voilà. On les informe sur leurs droits, sur les possibilités qu'elles ont, mais à aucun moment on les guide plus qu'on ne les influence, en tout cas.
Les guider vers peut-être un hébergement d'urgence, c'est aussi un des rôles de SES Violence Conjugale. Comment on procède finalement dans cet hébergement d'urgence ? On sent bien que c'est la décision de la femme, voilà, avec tous les éléments autour, les enfants, etc. Comment vous les accompagnez dans ce cas-là ?
Alors, il y a deux orientations possibles. C'est-à-dire que soit la personne vient nous directement à SOS Violence Conjugale en nous disant « Je veux quitter le domicile, j'ai besoin de partir et j'ai besoin de trouver un hébergement d'urgence. » Et donc, nous, à ce moment-là, on leur propose l'hébergement d'urgence qui est proposé par la veille sociale, donc le 115. Hein. Donc, on compose le 115 avec elle ou sans elle, mais on le fait en général quand l'entretien se passe. On leur explique que les hôtels sont sécurisés, qu'elles n'ont pas le droit de révéler l'adresse à qui que ce soit, même à leur famille, qu'elles peuvent partir avec leurs enfants. Et à ce moment-là, donc on contacte le SIAO, le 115, pour leur demander en fait s'il y a une place d'hébergement, sachant que le SAMU social a un nombre de places réservées aux femmes victimes de violences. Donc elles sont ensuite orientées sur des hôtels sur Saint-Étienne. On a aussi un hôtel qui est sur la couronne stéphanoise, mais la majorité des hôtels sont à Saint-Étienne. Une fois qu'elles sont hébergées à l'hôtel, elles ont la possibilité de venir tous les jours. Et ça, moi, c'est la deuxième partie de mon travail. Moi et une deuxième collègue qui n'est pas sur la permanence d'accueil. Ça s'appelle donc ce qu'on appelle l'accueil de jour. Et là, on bascule sur un autre accompagnement.
D'accord. Alors, quel est-il, cet accompagnement d'accueil de jour ?
Alors, pour ces femmes donc, qui sont hébergées à l'hôtel, elles ont la possibilité de venir tous les jours entre 13h et 16h30. Alors, premièrement, pour pouvoir manger, parce que les hôtels proposent rarement de la restauration. S'il y a de la possibilité de cuisiner, c'est un micro-ondes et, quand on a beaucoup de chance, un frigo commun à l'hôtel. Enfin, donc, c'est très compliqué, surtout quand il y a des enfants. Donc nous, on dispose au niveau des locaux de Bergson d'un petit espace cuisine qui est relié à un petit espace détente où il y a un canapé, il y a des jeux pour les enfants, etc. Donc elles peuvent tous les jours venir manger à l'association, soit avec des denrées alimentaires qu'elles amènent par leurs propres moyens, soit si ce sont des personnes sans ressources. Nous, on fait quelquefois du dépannage alimentaire avant de les orienter voilà, sur des associations caritatives qui peuvent donner des colis. Voilà. Mais ça, cette possibilité-là, déjà, ça c'est inconditionnel, avec ou sans rendez-vous. Elles peuvent venir ne serait-ce que pour se poser et pour manger. Voilà.
La question en latence, c'est un peu la question économique. Finalement, on s'aperçoit que bon, ces problèmes de violence faites aux femmes et le départ du domicile conjugal peut être accompagné un peu d'une privation de revenus. Ici, comment vous agissez ? Quels sont les leviers sur lesquels, alors vous l'avez dit, hein, on va vers des associations caritatives, mais dans le suivi, est-ce qu'il y a aussi un travail développé autour de ça, sur une activité économique ou autre chose ?
Alors nous, c'est vrai qu'on s'aperçoit, là, moi ça fait moins d'un an que je suis dans l'association, mais mes collègues vous diraient la même chose, c'est que les femmes qui partent et qui sont hébergées par le 115, et qui donc celles qui sont dans le dispositif hôtel, contrairement à celles qui sont aussi parties de domicile, mais qui ont trouvé une solution d'hébergement autre, on se rend compte que ces femmes-là, c'est des femmes qui ont été réellement isolées économiquement, donc ce sont des femmes qui ne travaillent pas, pour la plupart, qui sont souvent en situation administrative complexe, des femmes qui viennent de l'étranger, qui ont par exemple un titre de séjour qui ne leur permet pas de travailler. Donc au niveau des ressources, très souvent, ce sont des femmes qui sont sans ressources et sans forcément de possibilité d'ouvrir des droits. Droits RSA, etc. Donc nous, c'est vrai qu'on travaille énormément avec le conseil départemental de la Loire hein, pour des aides ponctuelles, surtout en particulier quand il y a des enfants. On a des possibilités de débloquer des petits secours financiers voilà, qui permettent de, au moins de pallier à l'essentiel. Hein. Et ensuite, quand ce sont des femmes qui ont des droits possibles, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des droits CAF possibles, on va les accompagner vers une ouverture de droits. Quand c'est des femmes qui sont en situation complexe au niveau de l'administratif, c'est-à-dire pas encore titre de séjour ou qui n'autorisent pas à travailler, on va travailler là-dessus, justement. On va essayer de faire qu'elles soient en situation régulière pour pouvoir au moins bénéficier de ces ouvertures de droits.
On parlait aussi tout à l'heure, et vous l'avez évoqué, les situations familiales compliquées avec les enfants, l'importance aussi de protéger ces enfants-là. On les accompagne comment au niveau de la scolarisation? Est-ce que vous veillez quand même, même en logement d'urgence, qu'ils continuent à aller à l'école, s'ils le sont inscrits et puis quel travail vous faites avec eux, s'il y a un travail avec les enfants en particulier?
Alors, au niveau du travail qu'on fait, effectivement, nous, on a une collègue qui a un mi-temps qui est exclusivement dédié aux enfants qui fréquentent l'accueil de jour. Donc, c'est-à-dire qu'elle elle prend du temps avec eux, déjà. Quand moi, par exemple, je prends du temps avec la maman pour discuter, pour évoquer les violences et que c'est compliqué de lâcher prise et de craquer quand il y a les enfants. Donc ma collègue part avec eux. On a une salle de jeu au rez-de-chaussée qui permet de s'isoler un peu. Et il y a un travail autour du jeu, autour de la, un petit peu des questions un petit peu anodines comme ça, de voir aussi quel a été l'impact de ce départ et quel a été l'impact de cette vie de violence avant, voilà, et ce qu'on peut faire aussi avec eux. Au niveau de la scolarité, on essaye au maximum de les maintenir dans une scolarité, mais c'est vrai que nous, on s'aperçoit que quelquefois, la scolarité est brouillée, dans le sens où les femmes partent du jour au lendemain, quelquefois, donc elles nous disent, mais les enfants, ils vont faire comment? Ils vont pas aller à l'école? On leur en dit, écoutez, mettez-vous en sécurité. Et ensuite, nous, on travaillera sur la scolarité. Donc, dans la mesure du possible, on essaye de les inscrire dans une école proche du lieu d'hébergement. Ça marche plutôt bien. En sachant que, vu que la plupart des hébergements sont quand même sur Saint-Étienne, on peut les inscrire dans une école, on va dire, proche de nos locaux à nous. Y a des femmes qui insistent pour que les enfants restent scolarisés dans la même école. Ce qui pose problème, c'est quelquefois le conjoint, le père, peut se présenter à l'école. Mais dans l'ensemble, on essaye de respecter au maximum cette continuité de scolarité pour les enfants.
Quand on accompagne une personne victime de violence, et dans votre rôle, est-ce que vous rencontrez également l'auteur de violence? Est-ce que ça peut vous arriver?
Nous, au niveau de la permanence et de l'accueil de jour, jamais on ne rencontre les auteurs.
D'accord, il n'y a pas de démarche non. Pour...
D'ailleurs, c'est déjà arrivé nous, que des femmes nous demandent de les rencontrer avec leur mari. Donc quand c'est le cas, on leur dit que le mari peut contacter du coup, le service Virage, qui est le service de notre collègue Madame Overwater. Mais nous, jamais on ne rencontre de couple et jamais on ne rencontre d'hommes. Le mari ou le conjoint violent ne le rencontre pas.
D'accord. Chaque cas est différent. La base est malheureusement un peu la même. Est-ce que vous accompagnez sur une durée prédéfinie? Est-ce qu'à un moment donné, on arrête l'accompagnement? Comment fait-on évoluer la situation?
Alors, on n'a pas de, on n'a pas de process, on n'a pas de durée définie, bien sûr. Il va y avoir des suivis très courts. C'est-à-dire que, c'est souvent pour des personnes qui sont très autonomes et en particulier financièrement, c'est-à-dire une dame qui va être à l'hôtel quelques semaines, le temps, elle, de trouver un logement, parce qu'elle a des ressources, parce qu'elle est autonome, parce qu'elle a un réseau aussi. Souvent, on se rend compte que les prises en charge qui durent, c'est que c'est des femmes qui n'ont pas de réseau amical, familial, qui aussi ont peu de ressources, voire pas du tout. Donc c'est très variable. Ça peut varier de quelques mois jusqu'à une année. Nous, c'est vrai que le but des femmes qui sont hébergées à l'hôtel, c'est qu'elles puissent accéder alors soit à notre CHRS SOS Violence Conjugale, soit au foyer à Cars, qui est un foyer d'hébergement avec lequel on travaille en partenariat, soit à un logement autonome. Que ce soit sur du logement accompagné, on va dire avec un travailleur social, ou vraiment du logement autonome. Voilà. Donc c'est pour ça que la durée est vraiment est. Il n'y a pas de règle en fait. C'est vraiment. On va au rythme de la personne. Des fois, il y a des gens qui veulent très vite passer à autre chose. Des fois, il y en a qui n'y arrivent pas. Voilà. Donc on suit vraiment le rythme. Et nous, c'est pas nous qui impulsons vraiment le tempo. C'est plutôt les personnes qui nous disent je suis prête, je suis pas, je voilà.
Dans l'accompagnement, vous avez évoqué des situations administratives qui peuvent être délicates parfois. Comment on reste dans le cadre de sa fonction ? Est-ce qu'il y a un cadre ? Est-ce que vous avez un cadre ? Ou est-ce que finalement, après, vous allez orienter la personne vers d'autres partenaires, vers un réseau que vous avez, vous, parce qu'il y a des problématiques à régler qui ne sont pas de votre ressort ?
Par exemple, pour tout ce qui est problématique liée au séjour, pour les femmes étrangères qui ont soit pas du tout titre de séjour, soit qui sont en situation précaire à ce niveau-là, nous, on se trouve très vite limités. On se trouve très vite limités parce qu'on n'a pas de connaissances extrêmes sur les droits des étrangers. Donc, on oriente beaucoup vers l'association ASFAM, qui est une association stéphanoise qui accompagne justement les personnes au niveau de leurs droits et au niveau voilà, de tout ce qu'elles peuvent mettre comme démarche. Nous, on reste dans le très simple au niveau des démarches liées au séjour. Ça sera des accompagnements préfecture pour récupérer un dossier, le remplir, voilà. Mais ça en reste là. Dès que c'est des situations qui sont un peu plus complexes, nous, on va orienter vers des services plus spécialisés.
Le travail qui se fait avec ces partenaires-là, ce sont des réunions que vous faites ou finalement c'est un réseau qui existe et il y a des numéros de téléphone que vous donnez ou vous mettez en contact ?
Alors il n'y a pas tellement de réseau, c'est vraiment un numéro de téléphone. Voilà. C'est une association en particulier qu'on sollicite, voire deux, parce qu'elles sont vraiment spécialisées sur ces droits-là. Après, une fois par trimestre, on a la chance... Je dis bien la chance de pouvoir rencontrer le directeur du service des étrangers à la préfecture de la Loire, qui est d'un grand secours voilà, pour dénouer un peu des situations un petit peu complexes ou avec des particularités. Et donc ça, voilà, une fois par trimestre, j'ai deux collègues qui se rendent en préfecture avec sous le bras les dossiers un petit peu complexes et on essaye de voir ce qui est possible de faire. Voilà.
On ne va pas parler de chiffres, mais je posais cette question au début. Quel est votre quotidien ? Finalement, combien de personnes vous appellent pour qu'on se rende compte chaque jour ?
Alors, en appel, on doit avoir une vingtaine d'appels par jour, entre 10 et 20 appels. Donc, ça peut être des personnes directement, ça peut être des partenaires pour des personnes, ça peut être des proches. En termes de rendez-vous, quand on est deux, on est à 6 rendez-vous par jour. Parce que les rendez-vous permanents sont très denses. Hein. Il y a une heure d'entretien pour faire le point. C'est souvent des situations très dures. Il y a des choses très dures qui nous sont révélées. Donc, on a besoin de prendre ce temps-là. Donc, voilà. Donc, c'est à peu près la moyenne. Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'on doit être à peu près à 600 personnes par an reçues.
D'accord. On a beaucoup parlé de famille avec des enfants, quand on parle de violence conjugale, on peut imaginer des personnes vivant sous le même toit, mais il n'y a pas que ça, il peut y avoir aussi des violences entre petits amis, et même en étant jeune. Là, comment on agit ? Il n'y a pas la notion de l'enfant, il n'y a pas la notion du départ forcément du domicile commun. Est-ce que c'est une méthode différente ?
C'est une méthode différente, oui, parce qu'en fait, effectivement, quand il n'y a pas l'enfant au milieu, il y a, on va dire, un obstacle en moins. C'est malheureux de dire ça, mais on va dire l'obstacle au départ. Enfin, souvent, quand elles ne partent pas, c'est à cause des enfants. Elles nous disent ou parce qu'il y a les enfants. Quelqu'un qui est en couple mais qui n'a pas d'enfant, nous, c'est vrai que quelque part, c'est pas que ça nous soulage, mais on dit, voilà, au moins, s'il y a un départ, il y aura. Voilà, c'est la personne seule qui va partir, il n'y aura pas aussi tout l'aspect enfants. On travaille différemment parce qu'on travaille peut-être plus sur pourquoi vous ne partez pas alors qu'il n'y a pas d'enfants en jeu. Donc là, on travaille des fois beaucoup plus sur l'emprise, sur le mécanisme de dire « mais je ne comprends pas pourquoi j'y retourne alors qu'en fait, il me fait du mal ». Quand c'est des couples aussi, par exemple, comme vous disiez, qui ne vivent pas ensemble, hein, des premières relations, parce qu'on a des fois des femmes relativement jeunes, entre 18 et 22 ans, hein, qui sont dans les balbutiements de leur vie de couple et qui sont déjà victimes et qui sont déjà sous des formes d'emprise très, très fortes. Donc voilà, là, on travaille vraiment sur qu'est-ce qui fait que cette vie de couple débutante, elle est déjà pathogène. Voilà, on travaille là-dessus et sur aussi, des fois, revenir un peu dans leur histoire familiale pour savoir pourquoi elles sont un peu dans cette spirale de violence.
Alors là, on touche à un ordre psychologique. Mmh. Et effectivement, vous n'êtes pas psychologue et qu'il y a des choses à creuser, à chercher. Ça fait partie du parcours, ça aussi, de proposer d'aller parler à quelqu'un.
Oui, ça fait partie du parcours. C'est vrai que nous, dans les entretiens, alors le premier entretien souvent est un entretien, on va dire, de débroussaillage, hein, où on balaie assez largement la situation. Après, quand c'est des gens qu'on reçoit 2-3 fois... qu'on est vraiment sur l'entretien qu'on appelle nous psychosocial. Il y a un moment aussi, nous, effectivement, on trouve notre limite, hein, quand il y a besoin d'une approche thérapeutique approfondie. Donc, nous, on oriente très souvent sur des psychologues, psychiatres moins, psychologues plus, parce qu'on connaît, on a un certain nombre de partenaires psychologues avec qui on travaille beaucoup. Quand il y a eu un dépôt de plainte aussi, on oriente vers la psychologue du commissariat de police, hein, sur Saint-Étienne, on a une psychologue qui travaille au commissariat, ou alors sur le service d'aide aux victimes, de Saint-Étienne aussi, qui est géré par la sauvegarde 42 et qui permet aussi aux victimes d'avoir des consultations de psychologues sur quelques séances et qui sont gratuites. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est apprécié parce que un psychologue, c'est cher, c'est pas remboursé par la Sécu. Donc des fois, c'est aussi un frein. Donc voilà.
Dans cette rentrée, cette question des violences faites aux femmes et violences conjugales a été mise en avant par les plus hautes sphères de l'État avec ce Grenelle qui s'est tenu début septembre. On a pu en parler et puis le grand public finalement a conscience de tout ça. Pour vous, dans votre activité, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous satisfait? Alors, c'est d'ordre personnel, hein, c'est une question. Et quel sentiment vous avez par rapport à ça et cette médiatisation, ce numéro de téléphone, le 3919?
On va dire que moi, à titre personnel, je ne fonde pas forcément de grands espoirs sur ce Grenelle des violences conjugales, même si on va dire que tout est bon à prendre, hein, et que mettre la lumière sur ce sujet-là qui est de plus en plus prégnant dans nos sociétés et qui en plus prend une ampleur assez phénoménale. Hein. Là, on explose, on va dire, les scores au niveau féminicide depuis le début de l'année 2019. Donc effectivement, oui, je pense pas avoir des attentes, comme je vous disais, mais au moins peut-être qu'on mette un peu le focus sur la prise en charge des victimes. Parce que nous, on s'aperçoit encore aujourd'hui que c'est compliqué, la prise en charge des victimes, qu'il y a besoin d'être formé sur toutes les strates de la société, parce que voilà, il y a aussi bien au niveau, bien sûr, des forces de police, hein, parce qu'on, même si ça a énormément évolué, on se rend compte quand même qu'il y a encore des lacunes, hein. Qu'il y a encore des femmes qui sont mal reçues dans les commissariats quand elles viennent déposer plainte. Donc ça, nous, ça nous met très en colère parce que c'est pas faute d'être formée. Hein. Depuis un certain nombre d'années, SOS Violence Conjugale forme en plus les forces de l'ordre. Donc bon, on aimerait que ça évolue encore plus, qu'il y ait vraiment cette prise de conscience que c'est pas parce que la dame, elle vient pas le nez en sang et deux yeux au beurre noir qu'elle est pas victime de violence. Voilà, parce que effectivement, il y a la violence physique, mais il y a aussi tout le traumatisme psychologique qui va avec. Et des violences psychologiques, voire sexuelles, il y en a énormément, voire presque plus que des violences physiques. Donc ça, moi, j'aimerais qu'il y ait vraiment cette prise en charge aussi. Voilà, c'est pas parce que ça se voit pas que ça n'existe pas.
Pour des personnes qui écoutent cette émission, et qui malheureusement pourraient se retrouver dans cette situation en étant victimes de violences. Qu'est-ce que vous leur diriez pour passer le pas, prendre le téléphone, vous appeler, quel conseil, entre guillemets, si on peut appeler ça un conseil à leur donner?
Alors, appeler, oui, parce que on va dire un coup de fil, c'est pas que ça coûte rien, même si c'est un énorme effort pour certaines, un coup de fil, un contact téléphonique. Nous, on les recevra pas forcément si elles n'en ont pas envie. On peut déjà essayer de faire le point avec elles sur la situation. Ce qui est très important aussi, et qu'on fait beaucoup en entretien, même téléphonique, c'est surtout de déculpabiliser la personne, de dire « ce n'est pas votre faute, ça ne vient pas de vous ». C'est lui qui est coupable, c'est lui qui n'a pas le droit, ou elle, hein, parce qu'on a aussi des hommes victimes, bien sûr. C'est l'auteur qui est responsable. Essayer d'enlever un peu cette notion de culpabilité qui est très très forte chez les victimes. Et voilà, essayer de désamorcer un peu cette situation en disant « non, mais même si vous partez, ce n'est pas votre faute ». Voilà.
Alors, rappelons que ça peut être anonyme.
Bien sûr.
On donne le prénom que l'on a envie. Hein, si on ne veut pas donner sa véritable identité, on peut le faire. Et il faut aussi dire que voilà, ce que vous venez de dire, c'est qu'il ne faut pas finalement se rendre doublement victime et avoir honte aussi de vous appeler.
Oui, tout à fait. De toute façon, nous, on est, alors comme je dis à chaque entretien, déjà soumise au secret professionnel, hein, tous autant qu'on est dans le service, on est tous travailleurs sociaux et donc tous soumis au secret professionnel. Et on est tous dans une écoute bienveillante, c'est-à-dire que voilà, nous, on n'est pas dans le jugement. Même une femme qui nous dirait à la fin de l'entretien ou quelques entretiens plus tard, alors qu'elle a déjà quitté le domicile, par exemple, bah, « j'ai décidé d'y retourner, j'ai décidé de lui donner une autre chance », nous, on n'est pas du tout dans l'optique de leur dire « mais vous faites une bêtise, non, n'y retournez pas ». Nous, on leur dit, quand ça arrive régulièrement, moi, je leur dis « écoutez, vous avez fait le chemin une fois, la porte, vous l'avez ouverte une fois, sachez qu'elle sera toujours ouverte, quelle que soit votre situation. Voilà, vous savez qu'on existe, vous savez qu'on est là, et que si vous avez besoin, vous pouvez nous ressolliciter ». Donc voilà, ça permet aussi de dédramatiser leur tour, de comprendre aussi l'ambivalence de ces femmes hein, qui feront peut-être plusieurs allers-retours avant que ça soit le bon, et en espérant que le bon se fasse pas, enfin que la dernière sortie se fasse pas de manière dramatique, mais en tout cas voilà, c'est important que les gens qui nous contacteront plus tard le sachent.
Bon, merci d'être venu sur l'antenne de Radio Ondaï pour répondre à nos quelques questions dans le cadre de ces émissions sur ces violences faites aux femmes, violences conjugales. Radio Ondaï vous propose une série d'émissions autour de cette question-là. Céline Obrespa, merci beaucoup.
Merci.